Main d'or.
Main d'or.
Main d'or.
Main d'or. Main d'or.
Main d'or. Main d'or dans les Barthas.
Très jeune, j'ai commencé à travailler avec mes mains.
Des artisans qui utilisent leur territoire pour concevoir.
J'ai récupéré beaucoup de bois, là j'ai beaucoup de bois qui ne me serviront jamais.
J'ai travaillé le bois, le métal, la céramique.
Une émission proposée par
Habitat Durable en Cévennes
et En Chemin.
Pour donner un motif qui soit récurrent, un peu géométrique, je vais le tremper dans un acide.
À écouter sur Radio Barthas.
Je me suis dit, tiens, ça, je pourrais le faire autrement ou quoi que ce soit.
Bonjour.
Bonjour. Oh, on n'a pas de talus arrivé.
Bonjour, Tom. Enchanté.
Enchanté.
Bonjour.
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 Serge Bouguer et
Jean-Pierre.
C'est un stage depuis 7 semaines maintenant.
Ok.
Bonjour.
Bonjour.
Florian.
Enchanté. Serge Bouguer, propriétaire des lieux.
Fabrice.
Et Fabrice.
Bon, on s'est fait envie d'entrer.
Vous avez bien fait parce qu'on fait du feu.
Vous entendez des coups.
Et là, c'est quand je le frappe.
Voilà.
En fait, tout c'est une. C'est un truc. Une vannerie de paysans hein, qui se faisait autrefois. Donc. En fait, plus que de l'art. Quoi. Aujourd'hui, on, c'est vrai qu'on évolue vers ça, parce que. Il y a la demande aussi, il faut dire offrir le couleur aussi au marché, mais on respecte quand même ça, cette manière de travailler que faisaient les anciens, ou dans notre région de France aussi, avec la matière sur place. Ce qui est vraiment flagrant au niveau de nous, de notre travail, c'est que. On récolte la matière sur place et on la transforme. Donc c'est parce qu'on est dans cette zone du châtaignier qu'il y a eu les paysans qui ont fait des paniers à châtaignier pour leurs besoins, des pièces solides qui étaient coupées en bonne lune pour que ça se conserve et qu'on retrouve des paniers qui 50 ans ou 80 ans.
Du coup, vous en êtes venu là en faisant de la castagniculture à la base, c'est ça?
Mais ça c'est-à-dire c'était trouver un équilibre au niveau de l'exploitation agricole, puisque bon, à l'époque, on transformait par la châtaigne, donc le coût aujourd'hui en Cévennes d'achat des châtaignes en coopérative, c'est pas très élevé, on n'y est pas avec ça. Quoi. Donc si vous voulez, il fallait trouver une solution. Aujourd'hui, bon, 10 ans après, on a créé des choses, 15 ans, on fait du sec, j'ai fait le séchage, j'ai le plaid pour... jusqu'à la farine de châtaigne, on fait plein de choses. Et les paniers, c'est pareil, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une activité agricole. Le travail lui-même, c'est un peu différent de ce qui se faisait autrefois, parce qu'autrefois, ils faisaient ça le soir, quand ils ne pouvaient rien faire et qu'ils faisaient mauvais. Bon. Aujourd'hui, c'est une autre approche, quoi. Je veux dire, moi, en tant que vannier, je fais des paniers pour le vendre. Et les gens viennent ici au mas, ils prennent des produits, ils achètent des paniers, voilà. C'est relancer un commerce qui n'existait pas à l'époque, ces choses-là. Mmh. Les gens faisaient deux, trois paniers pour eux-mêmes.
Voilà. L'atelier, là, il fait combien de mètres carrés, du coup ça...
Ah, elle n'est pas très grande. Hein. On est rentré jusqu'à 12. Il y en avait 6 en haut et 8 en bas. On était comme des anchois dans une boîte. C'était la Chine, ici. Mais souvent, il fait bon quand on travaille un peu dehors. Mais j'aime pas, 12, ça fait trop. Pour la vannerie comme ça, là, il faut pas, 6 c'est bien.
Du coup, pour donner l'ambiance, c'est un atelier tout en bois.
Oui.
Avec une petite mezzanine avec plein de dosiers rangés dessus. Des planches avec des paniers pendus en dessous de la mezzanine. Et puis dans un coin de l'atelier, il y a encore des paniers et puis des fagots de dosiers de toutes les couleurs.
Voilà, et quelques copeaux au sol, souvent.
Et quelques copeaux au sol.
C'est là quand on a fini la fin de la semaine. Oh, c'est beau comme ça. Vous savez que là, c'est un exemple, l'architecture cévenole, c'est-à-dire un mas principal qui est perpendiculaire toujours à la montagne. Et puis on met, en fonction des besoins de la famille, les membres neufs qu'ils appellent, membres neufs en occitan. C'est des bâtisses en U, hein. Elle n'est pas liée, hein. c'est trois murs. Quoi. Et de l'autre côté, la cuisine qui est chez moi, c'est pareil, c'est trois murs qui sont accolés contre. Ça c'est l'architecture, vraiment, c'est bon, c'est Daniel Travier là, de Saint-Jean-du-Gard qui m'a expliqué comment on retrouvait ce truc-là dans beaucoup de masses. Quoi. Notamment une porte à l'étage de l'habitation principale, adossée à la montagne.
Ça, c'était un cas de fuite. Quand il y avait l'attaque, il y avait encore la solution de pouvoir se casser.
Est-ce qu'il y a des noms locaux associés à la vannerie en Occitan?
Ah oui, beaucoup en Occitan. Ah oui, beaucoup en Occitan. D'ailleurs, il y avait même des termes, c'est-à-dire que les papés, quand ils travaillaient ensemble, ils disaient qu'ils bridoulaient en Occitan. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Ben, bridoulabion. On passait des bridoules au châtaignier. Ouais. On parlait pas de vannerie. Hein. Pas du tout de vannerie, on faisait des paniers. Bridoulaire, on faisait des Bertoul, parce que le nom occitan du panier, c'est Bertoul. Donc alors, ça on le décline comme tout ce qui est en occitan, c'est-à-dire un Bertoul, une Bertoul, une corbeille. Après, diminutif, une Bertoulette, plus petit. C'est rigolo, hein, quand même, ça. Mais c'est très riche, l'occitan. Hein. Moi, je vois dans la châtaigne, il y a des termes bien précis pour tous les outils qui n'existent pas en français. Hein. Quand on fait la châtaigne, c'est pareil.
C'est sûr.
Du coup, donc les outils, on a un petit peu parlé. Il y a le rabot, le banc.
Alors, le banc de loup avec la plane qui sert aussi à tous les gens qui ont fait de la charpente, du bois de châtaignier, enlever les peaux sur des piquets. On se sert de cet outil-là. Après, on a une serpe de vanier qui est intéressante. Mais bon, ça.
Du coup, les gabarits aussi, ouais.
Les gabarits, on les réalise.
Après,
ce qui est intéressant, c'est la serpe qui sert. Le poinçon, ça sert aussi dans la vannerie pour faire le piquage des pièces. Bon, après des outils, là une batte, ça permet en fait deux choses, de former, de taper. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, quand on fait la conception du panier, avant qu'il soit fermé, de passer entre des côtes, faire un levier. On a un côté où on peut taper. On peut taper entre les brins pour les tasser, entre les côtes par exemple. Ça, c'est un outil vraiment de vannier.
Du coup, les outils que vous utilisez là, c'est les tables comme ça là, je sais.
Alors voilà, donc là on va parler directement de ça. C'est une adaptation moi, que j'ai faite de la vannerie, parce qu'en fait les anciens n'avaient pas forcément ce banc de vannier qu'on appelle. Ils travaillaient beaucoup au couteau, et du coup, évidemment, comme on fait 2-3 paniers pour ses besoins, il n'y a pas une histoire de temps de réalisation. Quand on est comme moi, qu'il faut trouver un client pour chaque panier, il faut quand même essayer de trouver une pour mes paniers, le moyen de faire moins d'heures possible. Parce que c'est vrai que c'est pas comme quand on fait un tricot, on achète de la laine. Bon, non, là on n'achète rien. Quoi. Au départ, on va commencer à trouver la matière aux endroits où on va pouvoir la trouver. Ça c'est intéressant. L'autre jour on est parti du côté du Malzieu, là où on monte aux airs, on a ramené du cornouiller sanguin, qui donne ce côté rouge dans les paniers quand on la met. Donc on ramène ça, on a ramené une tige de frêne, on a fait un gabarit pour faire un panier à bûche super costaud. Le frêne, c'est ce que vous avez sur le panier à bûche en rond à la poignée.
D'accord.
Vous voyez, donc c'est vraiment ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est pas je pars parce que je cherche ça, parce que là je suis pas sûr de le trouver.
Ouais.
Je vais voir ce que je peux faire avec ce que je trouve. Voilà, il faut respecter les principes pour le châtaignier notamment. Le châtaignier, ce qui est certain, c'est que s'il n'est pas coupé, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une attaque derrière, ça implique de faire un traitement avec des produits chimiques, ce que je suis contre formellement. Donc du coup, j'insiste, là il n'y a pas d'évolution possible par rapport à ça, il faut vraiment respecter ça. Les teintes, c'est toujours des teintes naturelles, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est le même principe. Si on veut de la couleur, normalement il est blanc ce truc-là. Mais là, ça va être une cuisson pendant 8 heures à bouillir dans de l'eau, et le pigment de peau de la peau va passer sur le bois.
D'accord.
Donc ça, c'est du bois coloré par la teinte naturelle de l'osier, du sol.
Du coup, là, on a des fagots d'osier rouge, jaune, blanc, noir. Ça. Il y a des variances de couleurs.
Est-ce qu'il y a des périodes particulières pour récolter telle ou telle essence
du coup.
Ah oui, et là ça c'est très très important, parce que dans le châtaignier c'est important, dans le sol c'est important aussi. Ce qui se passe souvent, généralement, dans tous ces végétaux où la sève monte et redescend, c'est de les prendre à l'automne quand les feuilles tombent dans les au frimal. À ce moment-là on récolte la matière première. Mais en fonction de ce qu'on va faire avec la matière, ou comment on va enlever la peau si on veut faire de l'osier blanc par exemple, pour avoir des tiges du sol blanc comme vous avez sur le côté, là, de la fenêtre, c'est encore en particulier, en Cévennes, on a une certaine façon d'agir. Dans les écoles de osiéristes, ils font pas du tout ça. Donc, c'est une recette de cuisine, quoi. Alors,
bah oui, chacun a la
c'est très compliqué pour quelqu'un qui veut démarrer, qui dit « Oh, ben, j'ai vu ça, quelqu'un m'en a parlé », alors il se lance, mais ils sont de suite coincés parce que ça marche plus, quoi.
Et d'accord. Ce genre de savoir, vous l'avez acquis en testant ou
alors, il y a des choses, il y a des choses qui existent, il faut les trouver. Ouais. Nous, on n'a pas inventé le mouton à cinq pattes. Il y a beaucoup de choses qui existaient. Moi, j'ai beaucoup voyagé pour aller voir un petit peu comment ça se passait en Corse, dans le Limousin, dans le Var. J'ai beaucoup bougé en Ardèche. Bon. Et après, j'ai pioché un peu. Et c'est pour ça que ça plaît aussi à mes stagiaires, parce qu'ils ont trouvé que dans mon cursus, il n'y a plus rien qui est comme avant, quoi. Presque. Les gens qui ont appris avec moi à les faire épanier il y a 10 ans, aujourd'hui, on ne les fait pas de la même manière. On respecte ces grands principes que je vous ai dit tout à l'heure. Mais sinon, on a chamboulé complètement
l'affaire. Mais vous avez attrapé des petits savoir-faire en droite à gauche en voyage.
Bon, j'aimerais simplement, et je me dis, quelque part, cette logique, ce bon sens paysan, qu'il doit y avoir ailleurs dans notre région, ça permet d'en parler, ne serait-ce qu'aujourd'hui, à des jeunes générations qui ne connaissent pas, quoi, je veux dire. Donc, c'est pour ça que le panier à châtaigne, il avait ces crochets-là.
D'accord.
Dans cette vallée.
Dans cette vallée. Et il n'y avait que dans cette vallée de Saint-Martin, la vallée du Galaison, où ça se faisait. La vallée longue, il ne se faisait pas comme ça. Donc, c'est pour ça que moi, quand je me suis mis il y a 15 ans de ça, je regardais les pièces qui avaient été effectuées par les anciens et les autres vallées, je ne trouvais pas ces picots. Et ici, ceux d'ici, on les trouvait.
Ouais. C'est le vieux du coin qui vous a enseigné ça ou
alors,
c'est vous en cherchant?
Non, moi, c'est en cherchant parce qu'après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Tu sais pourquoi ?» Et cette personne faisait tous ses paniers comme ça parce qu'il accrochait le sac de toi. Ça, je ne l'ai pas rencontré, la personne était déjà décédée. C'est la mémoire orale hein, on parle de personnes qui ont disparu encore hein, parce que c'est des gens qui faisaient ça. Quoi, je veux dire. Donc aujourd'hui, les gens, moi je fais mes paniers, ils sont tous faits comme ça. Et puis alors, en même temps, on peut attacher les clés. Il y en a qui disent comme c'est pour les châtaignes, peut-être on prend la bogue, on la casse dessus pour sortir la châtaigne. Non, ça ne marche pas. Souvenir du papier quand il m'a fondé en 98, il me dit tu serres parce qu'il faut que ta vannerie elle tienne l'eau. Alors tu tasses bien. Alors des fois quand je le faisais pas bien, il me dit oh, il tiendra pas l'eau. Hein. C'est quelque chose, c'est un terme que les vannistes savent ça. En vannerie à châtaigne, il faut que ça tienne l'eau. C'est une image parce que ça tienne pas l'eau. Quoi.
Ouais,
ça la freine un peu. Quoi. Ça la filtre.
We'll be right back.
Quelles sont les différences entre les savoir-faire d'il y a 60 ans et ce que vous pratiquez actuellement ?
Alors, là, je peux vous le développer, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais si. Là, j'ai travaillé ça. Parce que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Et depuis, je me suis adressé aux bonnes portes, j'imagine, parce que j'ai vraiment des renseignements qui m'ont permis d'évoluer. Ça, c'était important. C'est ce que je recherchais au départ, plus que de curiosité. Mais en fait, on part du principe où chaque paysan fait ses propres paniers parce que son père lui a pris ou un voisin et la matière qu'il a là. Et il fait quelques paniers. Mais ce qu'il faut regarder dans les années 1850-1800, il y a une départ de l'industrialisation de la vannerie en Cévennes. Et il y a trois postes principaux qui sont le côté charbon, le côté cocon, la soie, et le côté maritime, la mer, les poissons. Ça, c'est les trois pistes industrielles qu'il y avait dans les années 1850. Avec ici un bassin minier, du côté du Vigan, Saint-Laurent-le-Minier, un autre. Et les ingénieurs ou les chefs de la mine demandent aux fameux paysans qui faisaient quelques paniers de leur fournir un contenant semblable. C'est-à-dire, il n'y avait pas de... On ne pesait pas le charbon, on comptait les contenants. C'est-à-dire que si c'était une corbeille comme ça, par exemple, le mineur, dans sa journée, devait en sortir 30, 40, je ne sais pas. C'était un volume, hein, finalement, qu'on pouvait mettre de charbon dedans. Donc, ils ont donné, vous allez voir pourquoi c'est intéressant, ils ont donné les formes et les volumes et les gabarits. C'est-à-dire que les anciens ne faisaient pas avec des gabarits ici. Mais quand on vous donne la forme... On vous donne la grandeur et la profondeur, on peut faire travailler 100 personnes, on aura 100 mêmes pièces du même volume. Du moins, je vais dire, il peut y avoir une finition plus ou moins rustique, mais de toute manière, on mettra autant de charbon dans celui-là que dans les 100 qui seront faits par un autre. Et donc, cette histoire de gabarit est venue par l'industrialisation de la vannerie en Cévennes. Donc moi, je me suis adapté à ça. Aujourd'hui, les paysans ici, quand ils prenaient ce bout de bois, ils mettaient sur leur genou. Il le tordait, il l'attachait avec un fil de fer qu'ils avaient ou une mauvaise ficelle, et puis il laissait sécher comme on fait nous. Alors que nous, on a des formes beaucoup plus régulières. Vous voyez, quand on fait les pièces, après c'est très. On dirait que c'est à la limite une machine qui le fait, quoi. Je veux dire, alors que c'est vraiment la main de l'homme. Quoi. Donc l'industrialisation, que ce soit pour le charbon, pour les cocons, les histoires de la soie, c'est pareil, on leur a fait faire des corbeilles où il y avait un certain volume qui rentrait. Donc on n'avait pas besoin ni de peser, ni de... On comptait le nombre de desks, c'est des corbeilles comme ça. Et pour du côté du Vigan, ils faisaient beaucoup pour le port de Sète, des paniers pour les moules, des pièges à moire aussi, un châtaignier, enfin, ils se faisaient plein de choses. Et si vous voulez, ce qui était marrant, c'est que... À l'époque, il n'y avait pas de production d'énergie tellement. Et pour la vannerie, on a besoin d'eau chaude. Ben, il y avait un travail, comment vous expliquer, là où on ébouillantait les cocons pour tuer le papillon et récupérer l'enveloppe, il y avait des chaudières. Il y avait une production d'eau chaude là. Okay. Et le vannier, il venait travailler là et faire les corbeilles pour après. Vous voyez un peu ça, c'est intéressant quand même, ça, de se dire. Ici, les hommes, quand ils faisaient les paniers, ben, ils avaient un feu ordinaire dehors, ils avaient les fours à pain, ils avaient le séchoir à châtaigne, la clède qui pouvait servir, ou le vulgaire feu de la cheminée. Ça s'arrêtait là. Alors que dès qu'on a pu passer, par exemple, dans la vapeur et dans l'eau chaude, ça a encore plus progressé la vannerie. Voilà, c'est un travail qui s'est passé comme ça. Alors, cette évolution-là, moi, je l'ai trouvée intéressante et c'est moi qui ai adapté, moi et d'autres, mais on est parti sur l'idée de gabarit de départ. Comme si on formait du métal à chaud et qu'on le laisse refroidir pour qu'il se reste bloqué. Une fois qu'il est sec, après on peut le démonter, il ne bouge plus. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Là les pièces ont toutes été montées. C'est pour ça que c'est très régulier comme travail. Les gabarits servent vraiment de bloquer pendant un certain temps au moment où ils sont encore trempés et souples. Et le lendemain, quand ils ont passé la nuit dans une pièce vers le chauffage, ils sont complètement secs et on va pouvoir les monter. Donc voilà un petit peu la réponse que je peux faire par rapport à votre question, c'est que on s'adapte par rapport à ce qui se faisait. Les paysans ne faisaient pas ce principe-là, quoi. Ils n'avaient pas le banc non plus, vous voyez. Après c'est une adaptation, mais quand même je suis très attaché à respecter la récolte de cette matière première, parce que ça on n'a rien inventé, quoi. Ils le savaient, ils l'ont transmis et on ne peut pas chambouler ça, on ne peut pas tout changer, quoi. D'ailleurs on n'a pas intérêt, quoi, je veux dire.
Du coup, en termes de temps, vous occupez plus de temps à votre activité d'artisan ou à votre activité de paysan, agriculteur?
C'est à peu près moitié-moitié, je veux dire. Ouais. Peut-être un peu plus de vannerie, parce qu'entre la formation, faire mes paniers, la formation de jardin, c'est presque un peu plus grand que la châtaigne,
ouais.
À la limite. Mais ça s'articule assez bien, finalement. L'hiver, moi, c'est plein pot, quoi. J'ai pas trop de temps, quoi.
À partir du novembre, c'est un rodage à accueillir.
Ouais. À partir du mois d'avril, mai, juin, jardin. Quelques week-ends. Mm-hmm. Après, juillet, août, je vais dire quelques animations pour le parc et ailleurs. Et puis ça y revient. Et puis les châtaigniers commencent en septembre, octobre, novembre.
Ça reprend.
Donc je suis à fond, quoi.
C'est reparti pour la vanne.
Après la réalisation des paniers, je vous dis, cette année c'est un peu calme, mais jusqu'à présent c'était quand même 60 personnes par an, donc ici. 60-70 même, parce que.
En formation.
Ouais. Si tu me permets qu'on te pose quelques questions.
Oui, c'est bien concentré. Ouais, je suis concentré. Hein.
Du coup, ça fait quelques semaines, c'est ça que...
Ça va faire cette semaine.
Cette semaine.
Oui.
On a fait la
D'accord.
semaine,
ouais. Vous en aviez déjà fait avant.
Ouais, une semaine.
Une semaine.
Un an et demi. Hein. Mmh. Et c'est dans le cadre de. C'est un stage une AGCIF. C'est payé par l'entreprise et c'est une formation que j'ai voulu faire. Hein, voilà. Parce que mes grands-parents étaient d'ici, et moi, je connaissais la. Un peu la valerie, et voilà.
Et ça vous intéressait de l'acquérir ce
stage? Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a des années que je voulais le faire. Et puis après, j'ai cherché sur Internet parce qu'il fallait que le maître de stage soit
référencé
pour pouvoir faire des stages gymnasiques, quoi. Et voilà. Donc j'ai trouvé ça, ici, chez Serge.
Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on a, on arrive à avoir une clientèle... différente quoi, avec des particuliers qui veulent faire ça, même Fabrice qui veut le faire pour lui, mais qui peuvent le faire dans le cadre professionnel. Ça c'est intéressant parce que j'ai vu des gens qui se sont installés aussi. Il y en a deux ou trois qui sont installés dans le Var. Oui, surtout dans le Var d'ailleurs, il y en a deux dans le Var.
Du coup souvent c'est des gens qui ont essayé dans des associations, qu'on testé comme ça ou chez des. Chez des vanniers.
C'est très varié. Il y a des gens qui n'ont jamais touché et qui veulent découvrir ça. Il y a ce côté nature qui les attire aussi. Et les gens qui viennent en formation, ce sont justement des gens qui sont attachés à ce genre de découverte. Quoi, je veux dire. Parce qu'il y a ce côté nature, c'est-à-dire on va aller récolter l'osier à tel endroit, on va aller récolter de la ronce à tel endroit, du noisetier à tel endroit. C'est vraiment. Cet atelier nature est très apprécié par les stagiaires. Quoi, je veux dire. Parce que dire, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut. Les gens sont en demande de cette chose-là parce que ça existe pas professionnellement. Je ne connais pas beaucoup qui font des stages comme ça. Hein. Voilà. Et moi, ça me change parce que le restant de l'année, je travaille seul, mais je suis content d'avoir du monde. Là, ça fait 2 mois qu'on s'amuse bien, hein, tous les deux.
Ah oui.
En travaillant quand même. Ah,
du coup, j'ai vu que vous faisiez aussi de la vannerie, du tressage gaulois, des plessis, des choses comme ça
à
l'extérieur.
Ça, c'est un truc qui m'intéresse énormément aussi parce que, en fait, c'est pareil. Quoi. Ce qui me plaît bien, c'est de pouvoir transmettre ça entre personnes. C'est un concept assez particulier, je peux vous en dire de vous. C'est. Au lieu de communiquer par internet, je me mets en relation avec un propriétaire qui est dans le châtaignier, quelque part en Ardèche, en Cévennes, où il est. Et là, du châtaignier, et où il y a ce fameux taillis de châtaignier que je vous ai appelé un peu polluant. Je propose à cette personne-là, qui est intéressée par la vannerie de tressage de tout ce qui est aménagement de jardin, mobilier de jardin, des choses comme ça, de faire une action avec elle. Chacun a un petit boulot. C'est-à-dire que moi, je vais. Apprendre aux personnes qui vont venir le travail. Elle va nous offrir l'accueil et le café au moins. On va lui laisser les pièces qu'on aura réalisées chez elle. Et elle aura son stage rémunéré. Elle n'a pas payé, quoi, je veux dire. C'est gratuit pour la personne qui reçoit. Moi, je viens et mon coût d'intervention va être payé par les stagiaires. Et les stagiaires, c'est elle qui charge les trous. C'est-à-dire que dans ses connaissances, elle prend Internet, elle prend le téléphone, elle prend le feu et la couverture, si elle veut, elle fait des appels, elle se démerde.
C'est un peu ce qu'on fait dans le cadre d'HDC, ça pourrait nous faire un bon chantier.
Oui, c'est
et à ce moment-là, les gens viennent pour une somme modique, je crois que c'était l'année dernière, 70 euros pour les 2 jours. Donc c'est pas c'est très cher. Hein. Et alors on a un atelier sympa, parce que entre 10 et 12 personnes, le samedi matin, on récolte des perches châtaignées, je finis mon explication. Tout ce qu'on aura besoin pendant les deux jours de stage, quoi, le jour et demi de stage, et puis le samedi après-midi et le dimanche, on fabrique. Mais alors, on fait des choses super hein, avec le châtaignier, c'est pas incroyable. Hein. Et moi, ce que j'aime, des fois c'est la personne qui m'appelle, des fois c'est moi qui propose, ça me parle. Et alors, je la rencontre avant cette personne pour savoir ce qu'on va faire et tout ça, ce qu'elle a besoin, ce qu'elle ne veut pas faire, des fois elle veut. Et alors après, moi, ce que j'aime bien, c'est faire le. La nuance entre ce qu'elle m'a dit le premier jour où je l'ai rencontré et ce qu'on fait réellement. Mmh. Et des fois...
On est à des lieux.
Et ça, elle y arrive sans la brusquer, quoi, je veux dire. Elle me dit, ah ben oui, t'avais raison, Serge, il fallait faire ça. Je pense à un exemple l'année dernière, du côté du Vigan. Elle a des terrasses qui regardent les goales comme ça. Et alors, on avait une allée, là. Et elle dit, alors on fera un truc rectiligne de là-bas et tout, tout le long. Ouais, il dit, t'as déjà les murs qui sont rectilignes. Bon, comment ça commence à... Je voulais casser ce truc-là, moi. Et il me dit, et puis ouais, ça m'engage pas à m'arrêter, tu vois. Alors tant vaut faire un chemin, on verra, on passe, on s'arrête pas. Je dis, moi, j'ai une idée aussi. On pourrait faire ce que tu dis au départ, et puis le couper un peu au milieu, tu vois, là, tu te mets contre ce mur, là. Regarde cette vue que tu as là. Ouais, elle me dit, ben ouais, je le vois, la vue. Oui, j'ai dit, tu la vois, mais tu la vois plus, parce que tu passes vite et tu la regardes plus depuis que tu es là. Moi, je serais pour faire ta bordure qui vient jusque-là, avec tes fleurs, et on fait un petit décroché, là, sur 3-4 mètres. Et là, on installe deux petites chaises, deux petits bancs et une table. Et quand tu voudras boire ta tisane, que c'est bien la cale, là, tu viens là, tu t'assois et tu regardes un peu, là, ta photo. C'est magnifique ce panorama là, ils vont en profiter. Ah oh, oui, il n'y avait pas pensé à ça. On a fait cette table l'année ravie.
J'ai l'impression d'avoir atteint un certain équilibre dans ce que vous faites.
Humain, oui.
Humain, sure, au niveau du travail.
Ah non, humain, c'est même dépassé. C'est même dépassé parce que j'ai trouvé déjà personnellement quelque chose, une sérénité personnelle dans mon travail et dans l'approche de la vie généralement. Par rapport à ça, c'est vrai qu'il faut travailler, mais on travaille, on s'en rend même pas compte. Quoi. Donc ça, c'est quand même intéressant.
Bah oui,
ça a permis de rencontrer des personnes exceptionnelles, à part Fabrice, hein, celui...
Là, il n'a pas eu le choix, lui. C'est imposé, là.
Non, franchement, j'ai fait des rencontres incroyables. Autant des professionnels, autant que des gens qui sont venus en stage... Des gens que je suis encore en relation, quoi. Je veux dire, ça fait 12 ans qu'ils sont venus ici, ou 10 ans, ils continuent d'être encore en relation, ne serait-ce que par mail, par téléphone, on se rencontre, on va sur des fêtes, des foires, des poignées, des paniers ensemble, vous voyez. Et je ne sais pas, mais bon, des exemples comme ça, j'en ai quelques-uns, quoi. Je veux dire, des gens qui sont devenus des amis, qui viennent ramasser les châtaignes quand c'est le moment, je n'ai même pas demandé. Une année, je m'étais fait mal à l'épaule. Une copine qui était venue en vannerie et s'est mis en congé de son travail pour m'aider à ramasser les châtaignes au mois d'octobre parce que moi j'étais blessé. Donc, ça n'a rien demandé quoi. Surtout que c'est un travail qui n'est pas payé quoi. Il en plus. Donc si vous voulez, voilà, ce côté-là, bon. Mais bon, c'est une passion. Hein, donc après, ouais. Il faut avoir ce.
La fibre.
Hein. Ouais. Mais les gens qui viennent à la vannerie de châtaignier, c'est pas par hasard quand même. Généralement.
Merci beaucoup.
Bon, bon plaisir.
À bientôt peut-être.
À bientôt.
Merci.
Merci pour votre disponibilité.
C'était Main d'or dans les Bartasses, une émission mensuelle à écouter le dimanche à 10h en semaine paire ou le vendredi à 18h en semaine impair ou sur www.radiobartasses.net.